explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. C'est un territoire isolé, impénétrable, un labyrinthe géologique fait de crêtes et de canyons au fond desquels vivent des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Bienvenue dans le massif du Makai, au cœur de l'île de Madagascar. L'explorateur Evrard Vandenboom s'est pris de passion pour ce coin de terre encore inexploré dont il a découvert l'existence il y a une quinzaine d'années. Depuis, il y a mené plusieurs grandes expéditions associant des scientifiques de tous horizons. Son but: observer cet écosystème inconnu, découvrir de nouvelles espèces et alerter sur la nécessité de préserver cette biodiversité aujourd'hui menacée. Ses actions sur le terrain ont abouti en 2015 à faire de ce territoire une aire protégée. Et depuis hier, le musée des Confluences à Lyon nous invite à découvrir ce lieu hors du commun dans une exposition immersive intitulée Makai, un refuge en terre malgache. L'occasion pour nous cet après-midi de partir bivouaquer avec Evrard Vandenboom dans ce labyrinthe géologique qui figure parmi les dernières terra incognita de notre planète. Et en fin d'émission, voyage à travers les cartes avec le géohistorien Christian Grataloup. Nous verrons comment nos représentations du monde, des continents et des océans ont évolué au fil du temps. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Antoine Teboul.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bon, premier journal. Premier journal d'une expédition. On est à côté du dernier petit village qui va nous permettre de rentrer dans le massif. Voilà, j'ai la chair de poule là. Je suis content. Et puis il faut que ça marche parce que les scientifiques qui sont là, ils sont pas venus pour rien, alors ça met un peu la pression aussi. Et puis pour le Makai surtout. Pour ces petits animaux qui m'ont fait pleurer la dernière fois, pour ces plantes qui disparaissent, pour ce petit Éden là qu'il faut protéger. C'est surtout pour ça qu'il faut que ça marche, tout ce projet.
Bonjour Evrard Vandenboom.
Bonjour.
C'était il y a une dizaine d'années, hein, vous vous lanciez dans une première grande expédition scientifique dans le massif du Makai, et manifestement, à l'approche de ce massif, vous étiez très ému.
C'était une double émotion. C'était l'émotion de pouvoir effectivement pénétrer pour peut-être pour la première fois, en tout cas dans certaines zones du Makai. Mais c'était aussi l'émotion d'être à la tête d'une équipe de quasiment 80 personnes. Et c'était la première fois pour moi. Moi, j'avais toujours fait des expéditions très en petit comité, plutôt sportives, plutôt rapides, plutôt légères. Et là, je me retrouvais avec une équipe de tournage, 40 scientifiques, des logisticiens partout, des gens qui géraient la sécurité. Enfin bref, c'était un gros barnum.
Ouais.
Et donc, pour moi, c'était un petit peu ambitieux.
Ouais. Alors, ce massif du Makai, la première fois que vous en avez entendu parler, Evrard Vandenboom, c'était en 2002, devant votre télévision.
Ouais, je venais de rentrer, à vrai dire, d'une période de ma vie où j'avais travaillé en tant qu'assistant chercheur en glaciologie aux États-Unis, et j'avais passé du temps dans l'Ouest américain. Et je venais de rentrer, ça faisait peut-être quelques semaines que j'étais là, j'étais sur le canapé de chez mes parents, voilà. Je m'en souviens très bien, ça pour le coup, c'est un fait marquant. Et je vois cette image de Madagascar, déjà de l'ensemble de Madagascar, qui est déjà un pays splendide avec une variété de paysages et d'écosystèmes extraordinaires. Et puis tout à coup, Nicolas Hulot qui survole avec sa classique montgolfière. Je dirais, la montgolfière de Dany Clayet-Marel.
C'était Ushuaïa, hein,
c'était Ushuaïa Nature, voilà. Et là, il y avait donc une petite portion de cette émission qui survolait le Makai. Et le commentaire en disait long, quoi. Il disait que cet endroit avait jamais été étudié par aucun scientifique et qu'il y avait là toutes les conditions propices à la création de nouvelles espèces. Ça a fait ping.
Ah oui, ça a allumé évidemment votre esprit d'explorateur. Alors, vous y êtes d'abord allé une première fois un peu en dilettante, enfin dans une expédition engagée mais pas assez sérieuse, en vélo avec un ami, et vous n'avez pas pu pénétrer le massif du Macaï.
On a pu l'approcher, mais on n'a pas pu y pénétrer pour diverses raisons, des problèmes de communication avec les communautés locales, parce que personne n'avait vu de blanc depuis fort longtemps, et donc plus personne ne parlait non plus le français depuis fort longtemps. Donc c'était compliqué pour nous. Le deuxième problème, c'était que le Macaï était pour certaines communautés considéré comme un massif un peu dangereux, ou en tout cas plus ou moins sacré. Enfin, il y avait un certain nombre de légendes qui faisaient qu'on nous faisait craindre des problèmes en allant à l'intérieur. Donc, on avait du mal à trouver des gens qui étaient prêts à nous guider. Mmh. Et puis, le troisième problème, c'était que si on n'avait personne pour nous guider, il fallait que nous, on puisse y aller tout seul. Et là, un, on était complètement crevés. Ça faisait 4 semaines qu'on traversait Madagascar en vélo. Et deux, on n'avait aucune carte. Enfin, il existait des cartes, mais c'était des cartes au 100 millième. Alors, pour donner une petite idée, 100 millième, ça veut dire que sur 1 centimètre de carte, ça représente 1 kilomètre de terrain réel. Et là, alors, je vais essayer de décrire un peu le paysage, mais on a affaire à un cervelet géant vu du ciel. Donc, c'est véritablement un entrelac de dizaines et de centaines de canyons qui sont tous très proches les uns des autres, qui sont très verticaux. On est vraiment dans des canyons extrêmement encaissés. Et donc, sur une carte au 100 millième, 1 centimètre, on voit rien, en fait. Mmh. On ne peut pas du tout se repérer et savoir où passer.
C'est un véritable labyrinthe. C'est-à-dire que dans ces canyons, lorsque l'on s'engage, on n'est pas sûr d'arriver quelque part.
Non, c'est très très régulier qu'on arrive sur un cul-de-sac, quoi. Voilà, des falaises partout et absolument infranchissables. C'est aussi ça le jeu de l'exploration. Hein.
Alors après votre premier échec, hein, lorsque vous essayez en 2005 de pénétrer le Macaï et puis que vous restez au bord, vous ne vous découragez pas et vous y retournez en 2007. Et là, vous allez pouvoir rentrer pour la première fois dans ce massif. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là?
Alors effectivement, c'est le moment un peu qui a marqué le début d'un changement de vie, littéralement.
C'est un basculement qui s'opère dans votre vie à ce moment-là.
Complètement. Parce que pour moi, jusqu'à cette période-là, le Macaï représentait un Eldorado. C'est-à-dire, je m'imaginais ça comme l'endroit où j'allais être le premier à mettre mes pieds. En fait, je voyais ça comme le rêve de ma vie d'aventurier et d'explorateur. Voilà. Ça y est, enfin, il existe une terre où je vais pouvoir être le premier. Donc, clairement, c'était ça le but initial. Et c'est ça qui a guidé cette première mission qui nous a permis de traverser le Macaï, donc du sud au nord. Mais au fur et à mesure de la progression, déjà le fait d'être en contact avec les communautés locales, avec nos porteurs, nos pisteurs, etc., les cuisiniers. Donc il y a un premier contact qui se fait, un premier amour, j'allais dire, avec les communautés. Puis avec cette grandeur, cette sauvagerie, cette tropicalité, cette virginité, enfin bref, il y avait tout qu'on prenait dans la figure. Mais il y a aussi un autre truc qui a été vraiment le déclencheur de tout, c'est la découverte des dégradations. Des dégradations auxquelles je ne m'attendais absolument pas. On était 3 et on s'attendait pas à voir des traces de feu partout aussi loin qu'on puisse aller dans les cœurs du Macaï. Il y avait des traces de feu. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Même là, même dans des endroits comme ça, il y a des impacts et il y a des dégradations anthropiques.
Et vous étiez-vous persuadé que cet endroit, même s'il n'avait encore jamais été exploré, regorgeait de formes de vie et de formes de vie inconnues, d'espèces qui avaient évolué là et qu'on ne trouvait nulle part ailleurs dans le monde?
Ouais, c'est-à-dire qu'on est dans une forteresse minérale. Vu de l'extérieur, ça fait vraiment ça. Ça fait une barrière de falaise. Et pour y pénétrer, il faut remonter des cours d'eau. Mais pendant longtemps, hein, c'est des heures et des jours de marche pour atteindre tout à coup des poches de végétation qui sont donc totalement isolé du reste. C'est comme une île au milieu de l'île, quoi. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et donc, c'était fascinant de s'imaginer découvrir tout un tas de nouvelles espèces, sauf que en être convaincu, c'est bien, mais savoir convaincre les autres, c'est mieux. Et donc, il fallait qu'on arrive à prouver la richesse en biodiversité, et c'est ça qui a amené aux expéditions scientifiques.
C'est ça. Pour en avoir le cœur net, vous y êtes retourné avec des géologues, des entomologistes, hein, c'est-à-dire ceux qui étudient les insectes, des herpétologues, ceux qui étudient les reptiles et les amphibiens, des botanistes. Bref, vous êtes revenu avec les compétences qu'il fallait pour découvrir toute cette biodiversité méconnue.
En fait, pour être précis, ces expéditions, elles avaient pour but effectivement d'inventorier toute cette merveille, mais c'était surtout c'était un moyen finalement pour pouvoir ensuite derrière demander ou proposer à l'État malgache de faire quelque chose sur ce territoire en disant là vous avez un patrimoine biologique extraordinaire et ce patrimoine il faut le protéger avant qu'il soit détruit.
Et on va voir que ça a marché. Vous allez nous raconter ce que les expéditions scientifiques que vous avez menées dans ce massif du Macaï ont permis de découvrir et puis nous dire quelles actions vous avez engagées pour protéger cette zone. Cet après-midi, Evrard Vandenbaum nous emmène bivouaquer dans une des dernières terres inexplorées de la planète, le Macaï à Madagascar. C'était Delgrès qui chantait 4 et de matin sur France Inter.
Bon, alors là, on a un petit passage sous-marin. Il y a un tout petit passage, il y a un bloc là qui passe, qui fait genre 2,50 m de haut, mais le grimper, c'est vraiment fatigant. Du coup, on va passer dessous. Ça fait un petit mètre, un petit siphon où faut plonger. Et derrière, vous arrivez dans une galerie qui est large comme ça. Et donc vous allez sortir et puis après il faut se déplacer comme ça sous l'eau. Enfin sous l'eau. Dans l'eau, on a la tête, voilà, on a vraiment pas pied. Hein. Et donc les sacs, eux, on va les faire passer par-dessus le rocher. Et puis ceux qui arriveront les premiers au fond, ils reviendront par au-dessus pour aller m'aider à faire les navettes de sacs.
Un extrait du film Expédition en terre Macaï qui retrace la dernière grande expédition que notre invité Evrard Vandenbaum a menée sur ce site à Madagascar, ainsi que la dernière exposition du musée des Confluences de Lyon nous invite à découvrir. L'exposition a ouvert ses portes hier. Evrard Vandenbaum, on l'entendait à l'instant, c'est parfois difficile de se déplacer dans ce labyrinthe géologique, d'autant que vous êtes nombreux. Combien de participants à cette dernière expédition menée en 2017, je crois.
2017, ouais, juillet-août 2017. Je crois que c'était aux alentours de 70 personnes, quelque chose comme ça. Alors après, c'est 70 personnes sur l'ensemble de l'expédition, mais on est répartis sur différents camps de base, on travaille sur différentes forêts, sur différents domaines, etc. Donc on se marche absolument pas sur les pieds. Ouais. Mais c'est vrai que dans certains passages, parfois, ça fait un petit embouteillage, notamment ouais. Quand il faut passer un siphon voilà, qui n'est
Alors
pas
vous,
donné à tout le monde.
Vous êtes avec des scientifiques, avec des éco-volontaires. Vous en avez, en quelque sorte, la responsabilité. C'est une lourde responsabilité d'emmener tout ce petit monde, tout en préservant les lieux, tout en préservant les troupes aussi.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que de mon point de vue, je le vis plus trop comme une responsabilité particulièrement lourde parce que j'ai un peu l'habitude maintenant. Ouais. Mais oui, bien entendu, il y a une question de sécurité. D'abord, il faut que on ramène tout le monde à bon port. Ensuite, il y a une question, comme vous l'avez dit, de respect des lieux. Et là, donc, ça implique de mettre en place un certain nombre d'initiatives qui permettent de limiter l'impact, on va dire, néfaste de notre présence. Alors, ça veut dire pas trop de bruit, ça veut dire aucun déchet, ça veut dire qu'on se lave pas avec du savon dans la rivière, ça veut dire qu'on fait pas ses besoins dans la rivière non plus, qu'on met en place, en fait, un certain nombre de règles que tout le monde respecte, hein, dans ces expéditions-là. Il n'y a vraiment aucun souci pour que les gens, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Donc, il n'y a aucun problème à faire respecter ce genre de choses. Mais on arrive même à 70 personnes à faire en sorte que le lendemain de notre départ, il n'y ait plus beaucoup de traces visibles.
Alors, qu'on comprenne bien, hein, il y a donc le dessus de ces canyons qui est quasi désertique, hein, quand on est sur la partie plateau du lieu. Et quand on s'enfonce dans les canyons, c'est là que se trouve la biodiversité. C'est là aussi où c'est parfois difficile d'accéder. Mais les scientifiques, une fois arrivés sur place, sont vraiment récompensés.
Oh, c'est Mimi ! Ah, c'est des petites hépatiques à feuilles, ça c'est cool alors. Ah, c'est trop. Mais franchement, les gens qui connaissent pas les hépatiques, ben, ils savent pas ce qu'ils ratent dans la vie. Salut Vra. Franchement, c'est génial. Sur 20 cm carrés, c'est un royaume. À mon avis, t'as 10 espèces là. Chaque groupement de ces plantes-là, les sphaignes, les mousses, hein, comme les coussins de mousse que tu vois là, ce sont des micro-écosystèmes à eux tout seuls, à une échelle minuscule. T'as des petits herbivores qui vont manger les mousses, t'as des petits prédateurs comme les tardigrades qui vont aller manger les herbivores des mousses, t'as des larves d'insectes, t'as des acariens qui vont être détritivores, t'as vraiment tout un écosystème reconstitué à l'intérieur du coussin de mousse.
Sur quelques centimètres
carrés. Et t'as les fourmis qui peuvent se balader, mais les fourmis sont des monstres, hein, là-dedans. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est comme l'éléphant chez nous, en gros.
La botaniste Catherine Reb, enthousiaste devant ces minuscules écosystèmes que renferment les mousses. On imagine le temps qu'il faut pour découvrir toute cette biodiversité si rien que dans quelques centimètres carrés, il y a tout cela à observer.
Ouais, alors et encore, si je puis dire, ce qu'il faut constater, c'est que la biodiversité aujourd'hui qui subsiste, elle est effectivement au fond de ces canyons, mais autrefois, il y a encore peut-être quelques dizaines, quelques centaines d'années, l'ensemble du territoire du Macaï était couvert d'un couvert forestier qui n'est pas celui qu'on trouve au fond, parce que là au fond on a vraiment affaire à des forêts presque pluviales, en tout cas des écosystèmes qui sont très très tropicaux, voilà. Là, le Macaï, quand on le regarde vu du ciel, ressemble plutôt à une sorte de désert au final. Hein. 95% du couvert forestier a déjà disparu et ne reste plus que ça. Mais ce petit bout-là de végétation encore. Va nous prendre des années, des dizaines d'années à étudier, c'est certain. Nous, pour donner un petit chiffre, on estime avoir étudié véritablement 5% de la surface du Macaï aujourd'hui. Et pourtant, on en a fait des expéditions
et vous
depuis
avez,
10 ans.
Vous avez découvert de nouvelles espèces au fond de ces canyons.
Ouais, près d'une centaine.
Ouais. Des nouvelles espèces. Alors, il y a cette faune minuscule. On a des toutes petites grenouilles qui ont la taille d'un ongle. Aussi des caméléons miniatures qui eux aussi tiennent sur le bout du doigt. Ouais. Puis il y a aussi une faune plus imposante. Hein. On croise aussi des gros animaux dans les canyons du Macaï.
Absolument. Alors, on croise en particulier des animaux emblématiques de Madagascar, que sont les lémuriens, qui sont évidemment les petites, j'allais dire, des peluches vivantes, quoi. C'est vraiment adorable. Ça fait un cri qui n'est pas spécialement adorable à écouter comme ça, mais qui est fascinant. Et c'est un animal qui est qui fait partie des primates, qui n'est pas du tout de la famille ou du taxon des singes, en tous les cas, mais qui est des prosimiens. C'est une bestiole assez magique qui saute de branche en branche, comme pourraient le faire les singes, qui mange des fruits, des feuilles, un peu de terre aussi parfois pour compléter son alimentation. Et il y a eu dans le Macaï aujourd'hui, on comptabilise une dizaine d'espèces déjà, ce qui en fait une des zones de Madagascar où on a le plus grand assemblage, la plus grande variété finalement d'espèces de lémuriens. Alors, sachant qu'à Madagascar, il y a 107 espèces aujourd'hui reconnues de lémuriens.
C'est ça, c'est ce qui fait une des spécificités de cette île, alors que sur le reste du continent africain, il n'y a plus de lémuriens. sur cette île, séparée de 400 kilomètres par le canal du Mozambique du reste du continent africain, il y a ces lémuriens.
Oui, alors c'est...
Comment ils sont arrivés là et pourquoi on ne les trouve plus que là ?
Alors, les hypothèses sont diverses, hein, mais il y en a une qui prédomine, on va dire, ce serait le fait qu'à Madagascar, il n'y ait pas eu de compétition avec les singes, justement, qui aient probablement été plus nombreux, plus agressifs, etc., sans doute, ou en tout cas, qui avaient la même niche écologique, et donc, à un moment donné, il fallait choisir. Sur Madagascar, personne aujourd'hui ne sait expliquer véritablement pourquoi il n'y a pas de singes et donc les lémuriens ont eu le loisir de se développer et de se multiplier, je dirais, de se spécier, comme on dit, c'est-à-dire de créer de nouvelles espèces. Une petite information comme ça, en fait, les lémuriens existaient non seulement effectivement en Afrique, mais ils existaient aussi en Asie. On trouve encore aujourd'hui des fossiles de grands lémuriens qui n'existent bien sûr plus aujourd'hui, de grands lémuriens qui faisaient jusqu'à 1,50 m de haut au Pakistan.
Ouais. Alors on trouve aussi dans le massif du Makai le fossa. Là aussi on a affaire à un animal peu connu hein, chez nous.
Oui, alors le fossa. Alors il est un peu plus connu maintenant depuis le film Madagascar parce que pour ceux qui l'ont vu, c'est le quand les lémuriens se mettent à crier parce qu'il y a une bestiole et un prédateur qui arrive, c'est le fameux fossa. Et ce fossa, c'est une bestiole un peu spéciale parce que il a l'apparence un peu d'un puma, enfin on va dire d'un un petit puma, on va dire. Mais en même temps, il a la capacité de grimper aux arbres, de sauter jusqu'à, je crois, 8 mètres ou 10 mètres d'un bond, d'une branche à l'autre. Et donc, il en devient le principal prédateur, ou peut-être le second après les rapaces, je ne sais pas exactement, mais des lémuriens. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller les chasser dans leur territoire. Et il est de la famille des euplérides, non pas des félins.
C'est-à-dire que ce n'est pas un félin. Il ressemble à des félins, mais c'est un plantigrade. Hein. Donc, il est plus proche des ours que des félins, on peut le dire comme ça.
Oui, on va dire ça, ouais.
C'est vrai
en tout
ou
cas,
pas
sur ce côté morphologique, oui. Après, il y a tout un tas d'autres caractéristiques qui font que ça pourrait se rapprocher plus des félins que des ours, mais bref, c'est compliqué. C'est une famille à part entière qui s'appelle les euplérides.
Ouais. Il y a aussi des chauves-souris gigantesques, quand on parle de renards volants de Madagascar qui survolent aussi ces canyons du Makai.
Oui, alors on les appelle en l'occurrence les Pteropus rufus, pour ceux qui ont envie d'aller chercher ça sur Internet. On dit aussi que ce sont des roussettes, c'est le groupe des roussettes ou les renards volants. Ça ressemble à ça, la mâchoire est assez proche également. Mais il faut imaginer un renard avec une envergure d'1,20 m.
Voilà. Quand il déploie
ses ailes. Donc il a un pelage marron, brun, voilà, et puis des ailes complètement noires. Et c'est assez fantastique. Et c'est vrai que le Makai est un refuge, là encore, pour les Pteropus rufus. On a trouvé au fin fond d'un lac, ça c'était en 2010, une colonie de plusieurs milliers de Pteropus rufus et ça en fait la plus grande colonie connue aujourd'hui à Madagascar.
Alors avec l'exposition qui a ouvert ses portes hier à Lyon dans le musée des Confluences, vous aviez envie de nous y plonger hein, dans ce Makai, c'est vraiment une exposition immersive. Vous nous emmenez, tels des explorateurs, à la découverte de ces terres inconnues et de ces espèces incroyables.
Ouais, le but du jeu c'était effectivement de sensibiliser d'abord à la biodiversité et de le sensibiliser comme on pourrait l'être quand on est un explorateur ou un scientifique. Et donc on a tout fait pour mettre en scène le Makai de telle sorte que les gens se sentent immergés totalement dans cet environnement. Ça passe par des sons, ça passe par beaucoup d'images, des dessins, des illustrations et par des odeurs.
Voilà un extrait de la bande sonore quand on pénètre dans l'expédition. Qu'est-ce qu'on entend là ? Décryptez-nous un peu.
Alors là, c'est justement une espèce de lémurien. Alors c'est ça, en l'occurrence un Eulémur rufifrons. C'est un petit lémurien qui est diurne, donc qui vit le jour et qui est le plus répandu dans le massif du Makai et qui a tendance souvent à être curieux. Enfin, je dirais que l'ensemble des espèces de lémuriens, c'est plutôt un animal curieux. Et donc parfois, quand on est sur des campements, ça c'est un enregistrement qui a été fait le soir sur un campement. Ils viennent au-dessus et on les entend pas arriver tellement ils sont précis dans leurs atterrissages, etc. On les entend pas du tout arriver et tout d'un coup on entend ce concert de cris, de chants, etc. C'est magique. C'est vraiment une bestiole fabuleuse.
Alors vous nous proposez avec cette exposition de l'entendre, ce Makai, de le voir aussi avec des grandes images, des grandes fresques, et puis aussi de le sentir. On peut aussi sentir des odeurs du Makai.
Ouais, on a essayé de retranscrire ce que nous on a vécu en fait les premières fois qu'on a pénétré dans les canyons. Et en l'occurrence, il y a notamment une plante qui s'appelle le canarium, qui est un bel arbre. C'est presque le plus bel arbre qu'on puisse trouver, le plus grand en tous les cas. C'est le rami en malgache. Et cet arbre génère une résine qui, quand l'arbre est un peu ouvert, quand il est blessé, etc., sort. Et en sortant, elle répand une odeur dans le canyon. Ça peut durer des kilomètres et des kilomètres. Et c'est une odeur d'encens. C'est un encens quasiment. Et c'est envoûtant, complètement envoûtant. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver une méthode pour le diffuser. Et donc on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Picard, qui est un spécialiste des senteurs, et qui lui a trouvé une méthode pour faire une huile essentielle à partir de ces résines. Et c'est cette huile essentielle qu'on permet de sentir aux spectateurs.
Et puis bien sûr, on peut aussi découvrir le travail des chercheurs que vous avez accompagnés sur le terrain. Évrard Vandenbaum, dans un instant, vous allez nous dire quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité du Macaï et les actions que vous menez pour la protéger.
Dans ma ville, il pleut tout le temps. Et je m'engueule avec mes parents. Et je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mes amis n'y ont rien compris. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'amis. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mon patron me fout à la porte. Après tout, que le diable l'emporte. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain.
C'était Antoine, je reprends la route demain sur France Inter.
Ah, c'est la première fois que je monte sur un baobab. C'est trop bon. Oh, y a une vue en plus. Ouais, là c'est un bon baobab.
C'est une belle découverte.
Alors, c'est un vieillard ou c'est un petit jeune?
D'après son diamètre et sa hauteur, vu que les baobab, ils ont une croissance très très longue. Je crois que c'est un très 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 vieux.
C'est un très vieux?
Ouais.
Il me semble que les baobabs, ils n'ont pas exactement la même structure que les autres, non? C'est ça? C'est pas comme les arbres habituels?
Non, pas vraiment, vu que d'abord, ils sont gorgés d'eau, ce qui donne un allure qui n'est pas très lisse, mais un peu...
Grumeleux, comme ça?
Grumeleux, oui.
Ouais, okay.
Et à part ça, il va être un peu plus creux à l'intérieur.
Ok.
Du coup, les gens ne vont pas trop l'utiliser vu qu'il ne sert pas à grand chose.
C'est pas du bon bois. Ça, okay. Donc ça, on peut strictement rien en faire en fait.
Non, c'est ce qui le garde en vie.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que là, si les gens, si c'est un bois utile, je crois qu'il n'existait plus à Madagascar.
Il n'y en aurait déjà plus. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, on aurait envie d'installer un hamac là, non?
Évrard Vandenboom, en compagnie de Camélia Rassou Aman Tenani Aïn, qui est botaniste malgache. Il faut vous imaginer perché dans ce baobab qui est accroché en haut d'une falaise. Il surplombe donc le fond du canyon. Vous avez sous les pieds 100 mètres de vide. Ça doit être un souvenir incroyable.
Oui, c'est en fait au moment où on grimpe dans l'arbre, on s'en rend pas compte, mais c'est quand tout à coup on arrive sur les branches là qu'on se retrouve en surplomb au-dessus de cette vallée complètement verticale. Ouais, c'était un bon moment. C'était aussi un bon moment parce que c'était la première fois qu'on trouvait des baobabs dans le cœur du Macaï. Et puis c'est pas comme si on trouvait des baobabs, on en a trouvé 4, c'est rien du tout, mais dans tout le territoire qui fait 4000 km², donc on a affaire à un territoire qui est grand comme la moitié de la Corse, grosso modo, on a trouvé 4 baobabs pour l'instant.
Ce territoire, le Macaï, dont on parle depuis le début de l'émission, c'est grand comme la moitié de la Corse, c'est gigantesque, on comprend que tous les recoins de ce dédale minéral n'aient pas été explorés.
Oui, oui, il y a encore du potentiel pour les amateurs d'exploration, ça c'est sûr.
Il y a une question quand on fait ce genre d'émission, qu'on reçoit souvent à des auditeurs, c'est pourquoi aller dans ces territoires inexplorés, vierges, où l'homme n'a pas encore mis le pied? Est-ce que la meilleure façon de les préserver, ce ne serait pas justement de ne pas y aller?
Alors, effectivement, c'est une question que je reçois aussi régulièrement. La réponse, elle est très simple. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aucun endroit sur la planète aujourd'hui n'est préservé. Aucun endroit sur la planète ne peut se prévaloir d'être un refuge ad vitam aeternam. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Quel que soit l'endroit où on va, il y a des menaces. Et là, sur le Macaï, très clairement, les menaces sont immédiates. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a quand même des gens qui habitent autour, il y a un certain nombre de communautés autour, et ces gens-là sont dans une précarité telle qu'ils sont obligés, par problème de nourriture, manque de nourriture, manque d'eau, manque de ressources économiques, etc., sont obligés, sont contraints, à plusieurs reprises dans l'année, d'aller pénétrer au cœur du Macaï et d'aller malheureusement y prélever des choses pour s'alimenter, pour chauffer, etc.
On comprend toute la difficulté. Madagascar est un des pays les plus pauvres de la planète. Il y a sur cette île, et particulièrement dans le Macaï, mais sur cette île, une biodiversité incroyable. Mais effectivement, quand des gens extérieurs au pays, des Blancs, arrivent en disant il faut préserver ce trésor sur place, c'est difficilement entendable pour des gens qui n'ont pas à manger tous les jours.
C'est même un peu plus complexe que ça, parce que leur dire qu'il faut préserver, ça c'est tout à fait entendable, ils le comprennent.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas entendable, c'est de leur mettre des contraintes, c'est-à-dire de les obliger à, par exemple, arrêter de faire du feu ou arrêter de mettre leurs ébus dans telle forêt. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment à tout prix éviter. Et en plus de ça, ça serait absolument pas constructif. Donc on est plutôt dans une recherche de consentement à chaque fois qu'on essaie de mettre en place quelque chose. C'est un travail, je dirais, qu'on pourrait appeler de d'immersion et de compréhension et d'écoute, etc., qui prend plusieurs années.
Il faut établir une confiance avec ces gens qui vous voient arriver de loin, avec cette idée que vous allez protéger ce massif qui est près de chez eux.
Alors au départ, on n'avait même pas cette idée-là. Pour être très clair, l'idée initiale, c'était juste de ramener de la donnée scientifique, de mieux connaître ce territoire et du coup, de pouvoir donner les clés à des organismes, peut-être l'État malgache ou peut-être une grande ONG qui prendrait le relais et qui aurait envie de s'investir pour la protection. Les choses se sont transformées petit à petit, voyant que, à la suite de nos résultats scientifiques, à la suite de toutes les démarches de sensibilisation, de communication, de valorisation du territoire Macaï qu'on avait pu faire, de conférences, d'expositions, etc., personne ne s'investissait. Et donc, de fait, on s'est transformé, nous, Nature Évolution, donc l'association que j'ai créée pour pouvoir porter ce projet, on s'est transformé en une association de conservation de la nature, puis, par corollaire, je dirais, une association d'aide au développement des communautés locales, parce que c'est en aidant les communautés locales qu'on va réussir à protéger ce territoire.
Oui. Comment vous faites alors concrètement pour aider ces populations qui vivent autour du Macaï?
Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est développer des projets de pépinières, donc d'agroforesterie, des projets d'apiculture, des projets de développement écotouristique aussi. Mais ça passe aussi par la mise en place de nouvelles écoles, le financement d'instituteurs, la mise en place de dispensaires pour qu'ils aient des meilleurs soins, etc. Donc c'est plus une action, enfin c'est une action aujourd'hui de développement économique, une action de développement social et une action de développement environnemental quand même, qui passe par de la sensibilisation. Donc on a des animateurs qui passent et qui font tout un tas de travail avec des ateliers avec les communautés.
Que de chemin parcouru quand même depuis cette émission que vous avez regardée à la télé en 2002 en voyant Ushuaïa et maintenant cette implication et cette cause que vous défendez.
Ce qui est génial, c'est que du coup, ça a tellement évolué que j'ai pas du tout l'impression de faire le même métier depuis 12 ans.
Ouais. Parmi les grands noms de l'exploration qui vous ont inspiré, bon, il n'y a pas seulement Nicolas Hulot, hein, il y a aussi Théodore Monod, naturaliste, spécialiste des déserts et humaniste. Le voici parlant de notre rapport au reste du monde vivant sur France Culture en 1976.
On pourrait parler, bien entendu, de l'éventuelle utilité pour telle ou telle chose, de telle ou telle espèce d'arbre ou de plante. Mais je crois qu'il faut penser au, pas tellement à des espèces individuelles qu'à des milieux vivants. La forêt, la mangrove, la savane, etc. Ce sont des formations naturelles qui font partie du vêtement de la planète. Et les destructions inconsidérées, les atteintes à ce vêtement, peuvent avoir des conséquences que nous ne savons pas prévoir. J'ai le sentiment que sans le respect des autres êtres vivants, c'est-à-dire des animaux, les animaux et les plantes. C'est d'ailleurs ce qu'avait découvert Albert Schweitzer, l'auteur Schweitzer, qui avait fait dans son système philosophique, avait fait du respect de la vie les bases d'une éthique nouvelle. Il disait, sans ce principe établi comme base de la morale, eh bien, l'homme ne sortira pas de ses difficultés actuelles et de ses méfaits actuels, hélas.
La voix de Théodore Monod, il y a un peu plus de 40 ans, avec un discours encore très actuel, Evra Vandenboom.
Malheureusement, de plus en plus actuel, je dirais. C'est ce qui est
dramatique.
C'était
un peu un visionnaire de ce point de vue-là.
Complètement. Là, on découvre aujourd'hui l'ampleur des dégâts en termes de biodiversité. Mais comme il le disait, c'était déjà connu finalement il y a 50 ans. Et là, aujourd'hui, on en est à des niveaux de déclin de biodiversité qui sont absolument dramatiques. Il y a une métaphore de l'aile de l'avion qu'on emploie souvent pour la biodiversité, c'est de dire que une aile d'avion s'est accrochée par des milliers de rivets. C'est comme si c'était la vie, grosso modo. Ces milliers de rivets, si on en enlève 1, 2, 3, 4, 10, 30, 100, 200, peut-être que l'avion tiendra toujours, l'aile sera toujours accrochée. Et puis va arriver un moment où on va enlever le rivet de trop et où l'avion, donc la vie, va se cracher. Donc là, on est vraiment sur une pente qui est absolument vertigineuse et j'espère bien qu'on arrivera à prendre le virage à temps.
Si on a envie de soutenir votre association Nature Évolution ou même de participer à des missions d'éco-volontaires,
c'est tout à fait possible. Alors on a un site internet déjà qui s'appelle natureévolution.org et sur ce site on peut découvrir effectivement différentes manières de nous aider. Il y a évidemment de faire des dons, on est une association, mais il y a une formule qu'on a mise en place il y a quelques années et qui est vraiment une réussite, c'est ce qu'on appelle l'éco-volontariat. C'est une forme de tourisme. Mais c'est une forme de tourisme véritablement utile, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur place ne viennent pas juste pour se dorer la pilule, ils viennent pour donner un coup de main à nos actions. Et ces actions, elles sont extrêmement variées. Elles peuvent aller de replanter des arbres, parce qu'à ce moment-là, au moment où ils viennent, on est en train de replanter des arbres, ou bien de construire une école parce qu'on construit une école, ou bien de suivre des scientifiques à aller observer des grenouilles de nuit dans la forêt. C'est extrêmement varié, mais dans tous les cas, c'est porté par notre association dans le but de préserver le macaï, et donc ça donne du sens au voyage.
Merci Evra Vandenboom. À découvrir la toute nouvelle exposition du Musée des Confluences à Lyon, Macaï, un refuge en terre malgache. Et pour en savoir plus sur votre association, eh bien, l'association Nature Évolution, on peut se rendre sur votre site internet que nous allons mettre en lien sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Un grand merci à vous Evra Vandenboom d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Dans un instant, nous partons pour un voyage à travers les cartes. Nous allons nous intéresser à l'évolution des représentations de notre planète au fil du temps avec le géohistorien Christian Grataloup.
After, in a film I had seen about a week before. thought I heard him saying, how about you get on this? Yeah. Well, how about you get on this? I can resist gentrification, but I cannot resist temptation. You're carrying the basket when I next caught your eye. A glint behind the clutter of a shop soiled life. Surely you could miss your appointment. I'll try not to be one more disappointment. You turned out you lived above the shop, and that's why you worked there.
No shit, Sherlock.
It was a very small flat with a very narrow kitchen. No need for further explanation. You sat down on the work surface. I got down to work on your surface. I could hardly get my breath. Toast crumbs like needles on the back of your legs. Hey, baby. Well, how about you get on this?
C'est Jarvis Cocker, Swanky Mods sur France Inter, la programmation du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Daniel Fievé.
Tu m'as trompé, pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as menti. Il y a longtemps qu'on a dépassé les 750 lieues.
Il y a 6 jours, oui.
Tu sais que les hommes sont au bord de la mutinerie, Colomb?
Croyez que je ne le sais pas?
On est complètement perdus. Écoute, Colomb, c'est mes caravelles. Hein. Alors moi, je te le dis, on fait demi-tour.
Et après, on a bu la moitié de l'eau. Le reste sera bientôt pourri. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant. La terre est là. La terre est proche.
Christophe Colomb face aux doutes de son équipage avant d'atteindre le Nouveau Monde. C'était un extrait du film 1492. Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Daniel Fiabet.
Vous venez tout juste de publier un superbe livre aux éditions Larousse intitulé « L'invention des continents et des océans, histoire de la représentation du monde ». Une histoire qui a connu un tournant majeur au moment de la période que l'on appelle la période des grandes découvertes dans laquelle s'inscrit l'expédition de Christophe Colomb. Au cours du 15e, 16e siècle, les représentations du monde changent radicalement.
Oui et non. En fait, elle change radicalement en dehors de l'Europe parce que les Européens imposent petit à petit, ça prendra du temps, c'est seulement au 19e siècle que à Pékin ou à Tokyo, à Edo à l'époque, on se dit asiatique. Jusque-là, c'est un mot dont il ignorait tout. Et les Africains n'apprennent qu'ils sont africains que tardivement également. Et quant à l'Océanie, c'est une expression qui est inventée en 1812. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui se fait lentement. Mais effectivement, c'est avec les grands voyages européens des 15e, 16e siècles, avec la colonisation progressive du monde par l'Europe, c'est une grille de lecture du monde qui s'impose et qui, pour nous, est devenue une telle banalité qu'on la prend pour naturelle, c'est-à-dire parler d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, d'océan Indien, Pacifique ou Atlantique.
Ouais. Aujourd'hui, et c'est toute la thèse de votre livre, aujourd'hui, nous avons en tête la représentation du globe terrestre. Il nous paraît naturel, elle nous paraît naturelle, cette représentation, mais elle est en réalité façonnée par notre culture. Alors, par exemple, rien que le nombre des continents, c'est un exemple emblématique, mais si on est français, il y a 5 continents, c'est pas le cas pour tous les pays.
Oui, parce que les Français ont longtemps employé continent au sens littéral du terme. C'est un mot inventé au XVIe siècle pour dire la terre en continu. C'est d'ailleurs au départ un adjectif, on le rencontre chez Montaigne, par exemple. Et des continents, il n'y en avait que deux, le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Deux terres en continu. L'Australie, ils ne la connaissaient pas, pas au XVIe, très peu. Et puis l'Antarctique, on n'en avait quasiment aucune idée. Donc, inversement, il y avait des parties du monde qui étaient au départ trois. Dans la map monde médiévale, c'est trois, Afrique, Asie, Europe. Puis on rajoute l'Amérique au XVIe siècle. Et c'est là où ça devient quatre parties du monde. L'école française a d'ailleurs gardé cette idée avec la cinquième partie, qui est essentiellement d'ailleurs une partie océanique, ce qui en tant que partie ne pose pas de problème, hein, qui est l'Océanie, qui en termes de continent devient un paradoxe. C'est plus une terre en continu, l'Océanie.
Oui, parce qu'il y a tous ces chapelets d'îles autour de l'Australie.
C'est liquide essentiellement, oui. L'Océanie. Mais c'était une partie du monde. Alors, les Français comptent cinq parce que c'est les parties du monde habitées. Ouais. Tandis que si on rajoute l'Antarctique, ça fait 6, c'est d'ailleurs comme ça qu'en général on compte en Allemagne. Et si on compte deux Amériques, ça fait 7, ce qu'on compte en général dans les pays de langue anglaise.
Oui, c'est ça. Alors, si les Européens n'avaient pas été les premiers à... C'est pas qu'ils ont découvert le monde, c'est qu'ils ont connecté le monde. C'est-à-dire que, évidemment, les gens qui vivaient déjà en Amérique ou qui vivaient déjà en Asie, ils savaient très bien que leur pays existait. Ce que les Européens ont fait avec ces grands voyages en bateau, c'est connecter ces différentes parties du monde. Comme c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont un petit peu plaqué leur vision des choses. Si les Chinois avaient été les premiers à connecter le monde, le découpage des continents ne serait pas le même ?
Oh, il aurait strictement rien à voir. D'ailleurs, peut-être même l'idée de découpage n'aurait pas été utilisée, puisque partir le monde et le découper en parties, c'est quelque chose qui est typiquement européen et qui remonte, comme je le disais il y a un instant, au Moyen-Âge et au territoire des trois fils de Noé. C'était une vision tout à fait biblique de la lecture de la Bible, hein, au départ. Donc, ce que les Européens ont fait au XVIe siècle, c'est d'identifier leur propre territoire, qu'ils ont appelé l'Europe et qui n'a aucun découpage naturel.
Oui.
Ils l'ont fixé à ce moment-là en fonction des limites de la civilisation européenne, par exemple à Gibraltar, mais ça aurait pu être autre chose, hein, incluant par exemple comme l'Empire romain, tout le nord de l'Afrique, un découpage qui serait passé au Sahara à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils s'inventent comme Européens, parce que comme ils se connectent, comme vous l'avez bien dit, aux autres, bien évidemment, ils se pensent par rapport aux autres. Et ça, c'est un phénomène nouveau où jusque-là, il n'y avait guère que les infidèles, c'est-à-dire le monde musulman, au-delà de au sud de la Méditerranée, auquel ils avaient affaire avec, entre autres, les croisades. Mais c'est parti du monde, c'est d'abord de se dire le nous, c'est l'Europe.
Oui.
Puis quand on va vers l'Est, au bout d'un moment, on dit que c'est plus l'Europe, on se reconnaît plus en Europe, alors on va appeler ça Asie. Mais la limite de l'Asie, c'est la non-Europe vers l'Est. Comme l'Afrique, c'est vers le sud, et puis au-delà de l'Atlantique, c'est l'Amérique. Donc ça s'étale en pétales, sans que les limites d'ailleurs externes, au-delà, par exemple la limite entre l'Asie et l'Amérique au nord du Pacifique, ça a longtemps été absolument obscur, ouais. Et aujourd'hui c'est une parfaite convention.
Ouais. On en arrive à cette notion de continent mou.
Ah, j'aime beaucoup l'expression de continent mou, parce que c'est vrai, si vous êtes au Caire, par exemple, vous êtes... En termes continentaux, vous êtes en Afrique. Mais c'est pas la dénomination essentielle du territoire. On est dans le monde arabe, on est dans le monde méditerranéen, on est dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est déjà flou. On est dans l'Euro-Méditerranée et on est dans la Oumma, le monde musulman. Éventuellement, on est en Afrique, par exemple, pour les compétitions sportives. J'ai souvent été dans des universités du Maghreb où mes collègues me disaient « En Afrique, c'est pas comme ici ». C'est-à-dire que
eux ne se considéraient pas en Afrique.
C'était pas en Afrique. Ouais. C'était l'Afrique, était en l'occurrence l'Afrique noire. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, quand on dit Afrique et Africain, on pense d'abord à l'Afrique noire. J'emploie une vieille expression parce que aujourd'hui, politiquement, il est plus correct de dire subsaharienne. Voilà. Mais l'Afrique est un découpage purement européen, une dénomination purement européenne, d'origine romaine, d'origine latine. Ça désignait la Tunisie, en fait, l'Ifriqiya. Le mot est resté en arabe pour dire Afrique.
Et pour l'Asie, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on nous parle de l'Asie, on ne pense pas spontanément au Liban. Pourtant, stricto sensu, si on prend une carte, le Liban se trouve en Asie.
Et même jusqu'au début du XXe siècle, Chypre était ouais. asiatique. Or, quand Chypre est rentré dans l'Union européenne, ça n'a pas posé problème. De même que Malte, qui pourrait très bien être en Afrique également. Et donc, vous avez là des découpages qui sont parfaitement conventionnels.
Oui.
En l'occurrence, d'ailleurs, ils ne sont pas innocents parce que ça correspond à des territoires à majorité d'origine chrétienne. C'est pas tout à fait sans conséquences géopolitiques. Ouais, mais c'est vrai que ces découpages, aujourd'hui, sont très chauds. Et le mot Asie, quand on pense aujourd'hui Asie, qu'on parle de la croissance asiatique, on avait aussi, à la fin des années 90, parlé de la crise asiatique. Vous avez là quelque chose qui est une réalité géopolitique et économique qui n'inclut pas le Liban, comme vous l'avez dit, ni la Syrie, ni même l'Asie centrale, qui pourtant devrait être ni centrale ni asiatique dans cette logique-là. C'est en gros le monde chinois, c'est peut-être le monde indien en rivalité, ce qu'il y a entre les deux, le Japon, mais c'est ce qu'on appelait dans un vieux vocabulaire l'extrême-orient.
Il y a beaucoup de choses qui nous semblent naturelles quand on regarde une carte, alors qu'elles sont pure convention. Déjà, le fait que l'Europe se trouve au centre, mais enfin, on a compris pourquoi les Européens se mettent au centre du jeu. Il y a aussi le fait qu'on mette le Nord en haut sur une carte. Ça aussi, ça n'a aucune. Ça nous paraît énorme. À la limite, une carte avec le Nord en bas, on va se dire, elle est à l'envers. On va la remettre en place, alors qu'il n'y a aucune logique à ce que le Nord soit en haut.
Bien sûr, nous avons tous vu des gens qui remettent la carte dans le bon sens. Et il y a une très célèbre image, souvent même presque iconique, parce qu'elle est devenue même une carte postale en Australie, qui moque l'Australie, en avait assez d'être en bas à droite. Donc, ils ont mis l'Australie au centre, et tous les autres territoires sont en couronne, pratiquement, comme aujourd'hui, sur une carte classique, ils sont en couronne autour de l'Europe. C'est purement conventionnel.
Ouais.
Alors, la localisation nord est liée à la boussole. Ça aurait pu être au sud, puisque les inventeurs, les Chinois ont longtemps eu une cartographie privilégiant le sud, mais les Européens l'avaient, dans le monde méditerranéen où la boussole est arrivée au 13e, on a privilégié la direction du nord, et ça fait faire un quart de tour aux cartographies qui étaient jusque-là plutôt orientées vers l'est. Je viens de dire orienté, c'est-à-dire tourné vers l'Orient. Donc quand on oriente une carte au nord, c'est un peu paradoxal.
Et puis Christian Grataloup, les océans aussi ont été découpés de façon arbitraire. Là aussi, alors, c'est encore plus vrai que pour les continents, parce que si on prend la masse d'eau liquide, tous les océans se touchent.
Oui, ils se touchent, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul océan.
Il n'y a qu'un seul océan, voilà, pour le dire
bien. D'ailleurs, pour les océanologues, la circulation de l'eau se fait absolument tout autour du globe. Mais c'est une habitude qui est venue d'avoir la Méditerranée au centre dans notre cartographie européenne, héritée des Grecs et des Latins, avec d'un côté l'Atlantique et de l'autre l'océan Indien. Alors qu'en fait, si vous prenez les connexions qui existaient avant les voyages européens du XVe siècle, le principal centre des relations entre les sociétés, c'était l'océan Indien. La vraie Méditerranée, au sens au milieu des circulations, c'est l'océan Indien. Parce qu'il y a toutes les mers de Chine d'un côté et la Méditerranée de l'autre.
Alors notre découpage des parties du monde terrestre et maritime est un fait de culture. D'ailleurs, votre ouvrage montre beaucoup d'œuvres d'art. Vous montrez à quel point les représentations du monde sont liées, ne sont pas que l'œuvre de géographes ou d'explorateurs. Elles sont aussi déjà liées à la religion et liées à l'art.
Alors, à la religion, oui, parce que c'est d'origine de lecture biblique, les trois parties du monde, mais à l'art aussi, parce que à partir du moment où on a identifié ces parties, on a voulu donner une identité. Et l'Europe, maîtrisant le monde, l'a d'abord, avant même de le coloniser, maîtrisé intellectuellement dans sa manière de le représenter. Et dès le XVIe siècle, on a quatre femmes, puisque c'est des noms féminins en latin, Africa, Asia, Europa et America, à partir de 1507, puisqu'on invente le mot à ce moment-là, vous avez ces noms féminins qui sont devenus des sculptures ou des peintures représentant des femmes, et on a une iconographie formidable qui nous montre ces différentes parties du monde avec des attributs, généralement un animal en particulier. Si vous voulez reconnaître l'Amérique, c'est facile, c'est toujours des plumes. Donc, c'est ce qui correspondait effectivement des pratiques de certains Indiens. L'Europe est toujours en majesté, en gloire, au centre, avec tous les attributs du pouvoir, le sceptre, la couronne, un globe terrestre. Mais l'Asie est toujours richement vêtue. Car l'Europe reconnaît vis-à-vis de ses sociétés plus anciennes quelque chose, une dette par rapport à elle. Inversement, l'Afrique et l'Amérique sont généralement représentées nues, c'est-à-dire sauvages, et donc évidemment dominables.
Merci Christian Grataloup. On voit par là à quel point notre représentation du monde en dit long.
C'est à la fois une belle histoire et en même temps une violence géopolitique considérable.
Votre livre, Christian Grataloup, est paru cette semaine aux éditions Larousse. Il s'intitule « L'invention des continents et des océans, histoire de la représentation du monde ». Un grand merci à vous.
Merci.
Vous pouvez retrouver cette émission et les précédents épisodes en podcast. Pour nous envoyer un message, rendez-vous sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.